Radicaux Libres. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont les derniers opus sont disponibles sur la page de l'émission, qui s'appelle donc Radicaux Libres, et la page s'appelle Radicaux Libres, mais c'est où ? Eh bien sur le site radioalpa.com, où vous pouvez retrouver plein d'autres émissions très 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 bien. On aurait pu vous parler de la convergence des luttes. Jeudi 5 décembre, avaient lieu des manifestations dans toute la France pour la défense du service public. Bon, on va pas se battre sur les chiffres, hein. Voilà, les services publics, les agents de la fonction publique, il y avait beaucoup de monde dans les rues. Ouais, il y avait beaucoup de monde dans les rues. Et d'après la presse locale, au Mans, il y avait même 3500 personnes qui ont battu le pavé, qui en fait était du bitume. Oula. Et parmi tout ce beau monde, il y avait des jeunes, oui, cortège est parti de l'université pour venir dire tout le mal qu'il pensait du gouvernement actuel et du projet de loi de finances. Une jeunesse qui venait aussi des lycées et donc de l'université où 200 personnes s'étaient rassemblées devant la maison de l'université mardi 3 décembre, selon la presse locale toujours, pour protester encore et toujours contre le projet de loi de finances 2025. C'est aussi le projet de loi 2025, présenté par la droite au pouvoir jusqu'à mercredi, ouais, parce que depuis il n'y est plus, qui a mené les troupes de la CFDT à manifester avec une playlist un petit peu plus revendicative que d'habitude. Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu, nous dit la CFDT, l'heure est grave. Les attaques contre la population semblent radicaliser les plus accompagnateurs des syndicats. On aurait même vu des membres de l'UNSA discuter avec des sénétistes. Mais l'information m'ayant été rapportée d'une seule source, je ne peux garantir sa véracité. Par contre, je suis sûr d'avoir vu des acteurs de la culture qui en voulaient aux dirigeants de la région et en particulier à Christelle Morançais.
La région a perdu le rond.
La région a perdu le rond.
Et nous coupons toutes les subventions.
C'est vrai que bon nombre de secteurs de la vie en société sont impactés par la volonté de Christelle Morançais de couper dans le budget de la commission 7 du conseil régional. Des secteurs différents et en l'occurrence, un tract a été diffusé au moment de la manifestation par Convergence 72 qui est donc le regroupement de tous les acteurs de la culture mais aussi du sport, etc. Qui se réunissent tous les vendredis dans des lieux différents pour faire des assemblées générales pour lutter contre les dispositions de Madame Morançais et du Conseil régional. J'ai bien dit d'abord de Christelle Morançais, puisque c'est elle qui, a priori, se fait un joli coup de pub, balance des chiffres, en veux-tu, en voilà. Et après, c'est à ses services de s'en débrouiller. Oui, le sport est touché, la culture, la jeunesse, la solidarité, l'environnement, les associations pour la rénovation énergétique, par exemple, le patrimoine même des musées, oui. Alors, Fontevraud est touché, oui, Fontevraud... dans le Maine-et-Loire. C'est quasi minime ce qui est touché. En fait, sur une subvention de plus de 5 millions, il est enlevé 6%, 300 000 euros. Ah, c'est peut-être pas mal 300 000 euros, mais sur 5 millions. Alors que pour d'autres, c'est moins 70, moins 80, moins 90%. Il y a même les chambres consulaires, la chambre des métiers et de l'artisanat, la chambre du commerce et de l'industrie, et même les chambres d'agriculture. C'est peut-être un peu pour ça que l'on retrouvait des militants de la Confédération paysanne ce jeudi 5 décembre dans la manifestation. Ils ont d'ailleurs pris la parole.
Et Christelle Morancet a enfoncé le clou en coupant notre budget sur nos actions syndicales, mais surtout face à nos amis, différentes associations qui soutiennent l'installation, qui soutiennent une agriculture beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Demain, 50% des agriculteurs vont tomber en retraite. On lui demande quels moyens va-t-elle mettre pour renouveler ses générations et pour avoir une agriculture toujours plus écologique et respectueuse des personnes et de la biodiversité. Pour une agriculture durable, saine, pour des paysans et paysannes nombreux, soyons fermes.
Merci les camarades. Donc là, ce coup-là, c'était la dernière course d'intervention pour la place de la gare. Maintenant, on file vers la préfecture pour les dernières prises de parole.
Et on a filé. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez ? Comme on le voit, c'est toute la vie qui est minée par le fait de la princesse Morancet, y compris la prévention. Une fois place de la préfecture, nous avons rencontré deux femmes du collectif Nous Toutes 72, venues manifester contre les coupes budgétaires qui touchent les associations de prévention des violences conjugales, comme le planning familial. Elles avaient une pancarte qui disait « Conjoint et père violent ». Dites merci Christelle.
Vous dites qu'à cause de ce manque d'argent, les plannings familiales ne vont pas pouvoir continuer leur action et que ça va favoriser ces personnes violentes ?
Bien entendu, parce qu'aujourd'hui on a des énormes problématiques, on demande des budgets supplémentaires pour essayer de les résoudre, parce qu'on est déjà à plus de 100 féminicides depuis le début de l'année, donc on est encore dans une problématique énorme, et on devrait avoir plus de budget, mais non, on va en avoir beaucoup, beaucoup moins, et c'est une honte. Voilà, donc effectivement, je considère que Christelle Morancet, qui a d'ailleurs lutté apparemment, à ce que j'ai vu sur des articles de journaux, elle aurait lutté avec la manif pour tous. Et donc ça rejoint encore une fois quelque chose qui n'a rien à voir avec nos luttes. La manif pour tous, c'est des mouvements qui sont catholiques, qui sont arriérés, qui sont contre l'avortement. Voilà, pour les femmes, c'est une catastrophe. Moins 90% de budget pour l'égalité femmes-hommes.
Ah oui, 90% sur les budgets alloués au planning familial et pourtant, et autres associations de lutte pour l'égalité femmes-hommes, hommes-femmes, l'égalité entre les humains, sachez que l'égalité femmes-hommes est une priorité régionale. Eh ouais, c'est l'objet d'une actualité sur le site de la région avec la photo de Christelle Morancet. Bah ouais, elle se met beaucoup, beaucoup en scène. Une actualité de mai 2018. Ça a changé depuis, où on apprend, je cite, « Le budget régional dédié à l'égalité femmes-hommes et aux violences faites aux femmes a été augmenté, passant de 200 000 en 2017 à 240 000 en 2018. » Oui, elle a porté sa patte puisque on lui avait laissé la place, en l'occurrence un certain Bruno Retailleau, qui préférait devenir chef des LR au Sénat plutôt que de rester à la région. Bruno Retailleau qui était LR mais qui auparavant était au parti de M. De Villiers, royaliste s'il en est, et aussi l'un des animateurs du Puy du Fou et aussi tricheur au Puy du Fou, oui. Et cherchez cette information sur vos internets préférés, c'est croustillant, enfin ça montre le personnage quand même. Je reprends là ce que disait l'actualité de mai 2018 sur le site de la région à propos de l'égalité homme-femme et de la lutte contre les violences faites aux femmes. La région a par ailleurs lancé un appel à projet destiné à soutenir les associations qui œuvrent pour lutter contre les violences et l'isolement des femmes. Voilà, des appels à projet et puis 6 ans plus tard, on enlève tout. En Pays de la Loire, les actions des associations sont alimentées par un fonds égalité femmes-hommes. Voilà, ça existe. Qui va être quasiment vidé si les économies que la région présente comme obligatoires, alors qu'elles ne le sont pas, puisque c'est une volonté de Christelle Morancet d'arriver à 100 millions d'économies, au lieu des 40 qui étaient demandés par l'État dans l'ancien budget, puisque là, le budget n'est plus d'actualité, eh bien, les 100 millions en question n'ont rien d'obligatoire. Hein, c'est le fait de la princesse, 100 millions, un chiffre qui claque. Et voilà comment on se retrouve à mettre des milliers de personnes sur le carreau, des milliers d'actions sur le carreau, avoir un chiffre qui claque pour sa pauvre carrière. Mon Dieu, mais qui sont ces gens? La région donc présente comme obligatoire ses économies et ça va vider donc le fonds égalité homme-femme qui avait pour but d'alimenter justement les associations qui luttaient pour l'égalité homme-femme et contre les violences faites aux femmes. D'ailleurs, est-ce du cynisme ou un manque de mise à jour? Sur le site de la région, ben, on continue à se faire mousser. La majorité de droite aux manettes est sur le sujet de la lutte pour l'égalité homme-femme continue à se faire mousser sur son site, puisque sur la page dédiée au fonds égalité homme-femme, on peut lire « Les associations en Pays de la Loire jouent un rôle essentiel dans la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes. C'est pourquoi la région renforce d'année en année son soutien au projet associatif de lutte contre l'isolement, la précarité et les violences faites aux femmes. Le présent fonds vise à soutenir ces actions en faveur de l'égalité. Les projets financés par la région devront répondre aux priorités suivantes. La sensibilisation des jeunes à la lutte contre les stéréotypes, la promotion de l'égalité professionnelle en favorisant la mixité des métiers et l'entrepreneuriat, la lutte contre l'isolement et les violences intrafamiliales et plus particulièrement celle faites aux femmes. Et ensuite, en majuscule, pour pas qu'on le loupe, ce fonds a été entièrement consommé en 2024. Merci de bien vouloir attendre le vote du BP, budget prévisionnel 2025. Ah ouais, faudrait l'enlever cette phrase-là. Faudrait même enlever l'ensemble s'il n'a plus d'objet, ce fonds égalité homme-femme. Aux dernières nouvelles, Christelle Morancé persiste et signe et se justifie. Sur France Bleu, une phrase est mise en exergue. Nous sommes shootés à la dépense publique. Et elle sait de quoi elle parle. Le journal en ligne Mediacité, qui a une antenne à Nantes, sort les notes de frais de la dame entre 2021 et 2023. Ça s'est fait là, fin novembre. En somme, depuis qu'elle est élue. Oui, puisqu'avant, je l'ai dit tout à l'heure, elle avait juste hérité du fauteuil du Vendéen vindicatif. Bruno Retailleau. Donc entre 2021 et 2023, Christelle Morancé s'est faite rembourser 42 792 euros de frais, soit 14 264 euros par an si on divise par 3 tout simplement, et si on redivise par 12, ça fait 1188 euros par mois. Rien qu'en note de frais, hein. Oui, parce que sinon elle est payée environ 7000 euros par mois pour être présidente de la région. 1188 euros par mois, arrondissons à 1200 balles, c'est 80% d'un SMIC. Soit environ 2 RSA également, rien qu'en note de frais. Le « nous » de l'interview, quand elle dit « nous sommes shootés à la dépense publique », le « nous » de l'interview de France Bleu la concerne assurément. Sans surprise, la majorité régionale et le RN soutiennent les mesures de la présidente de région. Une culture qui fait réfléchir, aider à l'égalité homme-femme, soutenir les jeunes en galère et le sport amateur ne les intéresse pas. L'intersyndicale régionale n'a pas donné suite à une proposition de rendez-vous avec l'adjointe à la culture de la région des Pays de la Loire. Il est vrai que rencontrer une sous-fifre ne sert absolument à rien quand c'est la présidente qui prend toute seule les décisions. Tandis que l'intersyndicale nationale reste en contact pour prendre toute mesure utile, blablabla, dans un communiqué du 5 décembre, l'intersyndicale qui avait organisé la manifestation du 5 décembre nous a pondu un communiqué. Oula, y a pas d'autre date, il n'y a rien de particulier. Il n'empêche qu'une nouvelle journée d'action est prévue le 12 décembre à l'appel de la CGT et de FO, mais aussi des agitateurs de la culture. Pour l'instant, rien de précis au Mans, donc à suivre dans votre syndicat préféré et sur Convergence 72.fr. Convergence72.fr. On aurait pu vous parler du 49.3 qui a entraîné une motion de censure votée par plus de 300 députés, dont une majorité. À la suite de cette motion de censure, le gouvernement dirigé par Michel Barnier a été obligé de démissionner. Et depuis, son gouvernement, nous nous apercevons que la fin du monde, depuis sans gouvernement, nous nous apercevons que la fin du monde n'est pas arrivée, contrairement à ce qui a été dit. On entend dans les médias des profs de droit de tout poil nous expliquer les arcanes de la Constitution de la Ve République, des interprétations différentes de ce qu'on peut en faire, et oui, mais si, ah ben peut-être que, des dispositions qui sont applicables ou pas. Pour ma part, cela me rassure. La Constitution n'est qu'un texte dont les autorités nous ont dotés pour organiser leur pauvre petit pouvoir. Donc, cette Constitution peut très bien être remplacée par un autre texte qui organiserait la société sans avoir besoin de représentants qui, une fois élus, n'en font qu'à leur carrière. Un mandat impératif changerait assurément les choses. Mais quand nous nous occuperons véritablement de nos affaires, il ne faudra surtout pas oublier de rappeler ce mandat impératif à tous ceux qui auront un tout petit peu de pouvoir d'organisation. À ce jour, 7 décembre, on n'a pas encore le prochain chef de gouvernement. Personnellement, il ne me manque pas. À propos des petites phrases de tous ces ténors de la politique qui nous rebattent les oreilles de leur expertise, quand il s'agit d'anciens premiers ministres, un critère me semble important à prendre en compte. Combien le politicien en question a dépensé d'argent public au titre des avantages accordés aux anciens premiers ministres ? Oui, parce que ces derniers peuvent avoir un secrétaire, une bagnole avec chauffeur et divers personnels payés par l'État, c'est-à-dire la collectivité. Bon, ben voilà, c'est nous, quoi. À noter qu'un Bernard Cazeneuve qui estime que François Bayrou ferait un bon Premier ministre, comme il l'a dit vendredi 6 décembre, et qu'il l'ouvre alors qu'on ne lui a rien demandé, eh bien, il a dépensé 200 000 euros. Oui, oui, 200 000 euros ont été dépensés par Bernard Cazeneuve. Parce que l'État lui a refilé pour profiter des avantages des anciens premiers ministres en 2023. Bernard Cazeneuve s'est rincé sur notre dos, le dos du collectif, pour 200 000 euros. Et là, il vient nous balancer que, bah ouais, ce serait pas mal, François Bayrou. Non mais attends, mais t'es qui Bernard Cazeneuve ? À quel moment tu peux te prévaloir de donner une information importante dans la gestion collective de nos vies quand tu, toi-même, tu récupères 200 000 euros au titre des avantages que tu peux avoir en tant qu'ancien Premier ministre ? Alors c'est une goutte d'eau, 200 000 euros dans l'océan de la dette, mais c'est surtout un symbole que ce genre de représentant du peuple n'a aucune conscience du collectif et se disqualifie d'entrée de jeu, disqualifie sa parole d'entrée de jeu sur Internet, dans votre moteur de recherche préféré, tapez « coup des anciens premiers ministres ». C'est flippant. C'est flippant de voir par exemple que François Fillon, condamné pour détournement de fonds publics, a utilisé 125 000 euros appartenant à la population en 2023. Bon, les discussions à propos du prochain gouvernement sont entamées par Emmanuel Macron sur le choix du Premier ministre. Le mauvais acteur mais vrai banquier risque de nous balader encore. Eh, vivement que nous nous occupions nous-mêmes de nos affaires. On aurait pu vous parler de l'intervention télévisée du même, le mauvais acteur mais vrai banquier qui nous sert de péter de la rep. Mais j'ai eu une telle impression déjà vue que je pense que les chaînes se sont trompées en nous repassant un vieil épisode intitulé « C'est pas de ma faute si vous faites pas comme j'avais prévu, bande de... » C'était totalement inintéressant. On aurait pu vous parler de la liberté de la presse vraiment attaquée en France. Pas quand le CSA empêche les dégueulis hanounesques de s'exposer sur la TNT, mais quand la justice sert à bâillonner des journalistes d'investigation qui s'intéressent d'un petit peu trop près aux magouilles étatiques contre les peuples. En l'occurrence, Ariane Lavrieux du site Disclose est convoquée au tribunal le 17 janvier pour avoir enquêté sur une opération baptisée SIRLI, S-I-R-L-I, ce qui lui vaudra peut-être une inculpation pour, je cite, « appropriation et divulgation d'un secret de la défense nationale ». Elle risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Elle qui a déjà fait 39 heures de garde à vue en septembre 2023. L'opération SIRLI est une opération secrète de surveillance effectuée par l'armée française pour le compte de l'Égypte dans l'ouest égyptien, notamment proche de la frontière avec la Libye. Cette surveillance devait permettre de déceler des incursions terroristes. Mais en fait, elle a surtout servi aux autorités égyptiennes pour cibler des contrebandiers qui trafiquent toutes sortes de marchandises avec la Libye. Disclose, où travaille Ariane Lavrieux, a obtenu des documents qui ont permis de déterminer au moins 19 cas de destruction de véhicules civils de contrebandiers avec l'aide de l'opération SIRLI. On est loin de l'objectif de départ. L'armée française n'est pas fière et les autorités, la ministre des armées de l'époque Florence Parly et le PT de la REP Emmanuel Macron, étaient au courant de l'utilisation des informations transmises aux autorités égyptiennes par les agents de SIRLI. On comprend mieux pourquoi les autorités françaises s'acharnent sur la journaliste et essaient de faire un exemple. Ah oui, parce que tout ça pour continuer à vendre des rafales, franchement, c'est assez moche la realpolitik en territoire capitaliste. Mais finalement, on a préféré vous parler de quoi ? D'économie circulaire. Je Jusqu'au 14 décembre, à la Fabrique Rêve de Ville, ont lieu les semaines de l'économie circulaire. La Fabrique Rêve de Ville, on le rappelle, est située boulevard Anatole France, tout près de l'île aux planches. La Fabrique Rêve de Ville, on l'a dit la semaine dernière, on le redit, est un lieu d'information et d'échange autour des thèmes qui touchent à la transformation du territoire, comme l'architecture, l'urbanisme, le développement durable et le paysage. Voilà, c'est ce que dit le site internet. Mardi 26 novembre, on y a rencontré Mathieu Durand, qui s'est présenté lui-même, le faisant tellement bien qu'on va le repasser.
Mathieu Durand, professeur à l'Université du Mans, professeur en géographie et urbanisme et spécialiste de la rudologie, donc de cette approche systémique des déchets.
Donc, il étudie les déchets. La dernière fois, nous avons vu avec ce géographe rudologue quel était l'objet de l'économie circulaire que lui préfère dénommer la circularisation de la matière. Ainsi, cette économie, s'il en est une, s'oppose à l'économie... Je recommence. Ainsi, cette économie, si c'en est une, s'oppose à l'économie linéaire. L'économie linéaire, caractérisée par un cycle unique pour les matières premières, extraction, fabrication, utilisation, poubelle. Au contraire, la circularisation de la matière vise à multiplier les cycles des matières premières à travers plein de verbes en re, réparer, réemployer, recycler, refabriquer. Et la réalité de la circularisation de la matière. Quelle est-elle? Et les industriels dans tout ça? Nous reprenons notre entretien avec Mathieu Durand, rudologue.
Donc, en théorie, ça permet un certain nombre d'objectifs écologiques, faire durer les choses, un cycle de vie pour les produits plus importants. Mais alors, en pratique, est-ce que véritablement cette économie circulaire, elle a une réalité actuellement?
Elle a une réalité partielle. En France, par exemple, on a environ 20% de la matière qui est circulaire dans son usage, qu'on va récupérer, qu'on va recycler. Donc 20%, c'est pas la majorité, mais c'est pas non plus négligeable. Ce taux de circularité de la matière tend à croître tout doucement. Mais il y a deux choses qui se croisent un peu quand on veut redévelopper cette économie circulaire. On peut estimer que c'est les consommateurs, les usagers, les particuliers qui ont à modifier leur mode de vie, qui ont par exemple à aller acheter en vrac au lieu d'acheter avec des emballages, qui ont à développer l'autopartage au lieu d'avoir chacun leur voiture. Sauf que ça, on peut le faire individuellement si on est dans un système qui est organisé pour ça. Et si on a l'ensemble de la société qui est organisée pour ça. Moi, j'ai envie de trier mes déchets. Pour autant, je ne vais pas m'amuser à faire 500 mètres pour aller chercher une poubelle de collecte sélective. Et du coup, je vais aussi dépendre de ce qui m'est proposé, de tous les services qui sont proposés. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'organiser la société avec différents mécanismes pour aller vers une économie plus circulaire.
À propos des objets, des produits, est-ce que les industriels jouent le jeu?
Les industriels jouent en partie le jeu, ils jouent le jeu en fonction des règles du jeu qu'on leur donne. Par exemple, un des outils qui permet d'avancer vers l'économie circulaire, c'est ce qu'on appelle les filières REP, les filières de responsabilité élargie du producteur. Je ne vais pas rentrer dans le détail du fonctionnement, mais qui fait que quand vous achetez une bouteille d'eau, quand vous achetez un téléphone portable, un meuble, vous payez quelques centimes, voire quelques euros, qui permettent d'alimenter toute cette filière d'économie circulaire. Et du coup, les industriels, ils jouent le jeu si on leur donne des normes et des contraintes précises, et puis si on les accompagne financièrement pour que ça puisse devenir rentable ou du moins équilibré financièrement pour eux de jouer le jeu. Et à partir de ce moment-là, ils jouent le jeu. Mais sinon, spontanément, les industriels répondent aux demandes des consommateurs et donc ils vont pas forcément aller spontanément contre leurs propres intérêts, ce qui est normal.
Vous parliez tout à l'heure d'une meilleure circulation des matériaux et d'une réutilisation des matériaux, mais de fait, on continue à s'inscrire dans une économie qui est une économie basée sur le profit. Donc l'industriel, s'il n'est pas contraint, il n'aura pas l'idée de limiter son profit au profit de la société.
L'industriel va éventuellement essayer de modifier ses pratiques, mais en effet, il ne faut pas forcément que ça touche à ses profits, ce qui est inhérent à ce type d'entreprise, c'est assez normal. Pour autant, si on leur offre les bons outils pour avancer sur le sujet, par exemple les emballages alimentaires, c'est vraiment un peu la filière emblématique. Comment diminuer les emballages alimentaires? Les industriels ont des intérêts divergents. Certains ont intérêt à vendre des produits alimentaires, et du coup, que le produit soit emballé ou pas, bah, finalement, peu importe pour eux, donc eux, ils peuvent aller facilement vers la vente d'emballages réutilisables. Par contre, on a certains industriels dont le métier, c'est de fabriquer et de vendre des emballages plastiques. Et eux, évidemment, c'est plus compliqué parce que sans emballage alimentaire, c'est leur activité économique qui meurt, qui périclite. Donc, il y a tout un tas de dispositifs pour accompagner ces industriels vers une évolution de leur activité économique. Mais en effet, ça prend du temps.
Allez, j'espère qu'on l'a. La circularisation des matières premières est donc une réalité, au moins pour 20% des matières premières. C'est pas rien, c'est pas beaucoup non plus. Une société mieux organisée pour récupérer et recycler est désirable. Mais dans le cadre économique actuel, ça veut dire toujours dans la quête du profit. Et c'est peut-être pourquoi les filières REP fonctionnent aussi mal. Les filières REP, hein, de responsabilité élargie du producteur, donc ça concerne eh bien, les entreprises qui doivent verser, qui doivent mettre en œuvre des éco-organismes pour accéder au recyclage des produits qu'ils ont produits. Un rapport officiel rédigé par l'Inspection Générale de l'Environnement et du Développement Durable, l'IGED, l'Inspection Générale des Finances, l'IGF, et le Conseil Général de l'Économie, de l'Énergie et des Technologies, un rapport intitulé « Performance et gouvernance des filières à responsabilité élargie du producteur » a été donné au gouvernement en juin 2024. Il permet d'analyser notamment les performances et gouvernance des éco-organismes, ces structures de droit privé à but non lucratif, chargées par les industriels de gérer leurs déchets, des structures financées par l'éco-participation ou éco-contribution payées sur chaque produit. Les éco-organismes sont l'instrument principal des filières REP, donc à responsabilité élargie du producteur, pour gérer les fameux déchets qu'ils produisent. L'un des gros problèmes est que les éco-organismes sont le plus souvent administrés par les industriels eux-mêmes, d'où un conflit d'intérêts. Le rapport affirme « La gouvernance des éco-organismes par les metteurs en marché » donc les metteurs en marché sont les fabricants distributeurs, les distributeurs importateurs. Donc la gouvernance des éco-organismes par les metteurs en marché leur permet de privilégier le niveau des éco-contributions plutôt que l'atteinte des objectifs et entre en contradiction directe avec la priorité donnée à la durabilité, au réemploi et à la réparation. Et c'est là où on se dit, ben mince, ça partait d'un bon sentiment, mais après. Le rapport souligne également que la vingtaine d'éco-organismes est parfois en situation d'abus de position dominante et ne fait pas face aux sanctions qui lui sont dressées. Le rapport 2024, finalement, ce rapport 2024 ne fait que confirmer ce que Flore Berlingen, l'ancienne directrice de l'association Zéro Waste France, hein, Zéro Déchet France, a écrit en 2020. C'était dans un livre intitulé « Recyclage, le grand enfumage, comment l'économie circulaire est devenue l'alibi du jetable » où elle parlait justement des difficultés qui sont liées à ces positions dominantes et font finalement du recyclage une activité comme une autre, avec du profit à la clé. Alors faites gaffe, il y a aussi un bouquin d'un certain Ivan Stefanovic. On vous le conseille pas, on conseille pas le bouquin de cet auteur habitué des plateaux des médias d'extrême droite qui justement a un autre intérêt que Flore Berlingen. Mais il existe des lois pour la mise en place de la circularisation de la matière première et c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Que vous dire ? Eh bien que la semaine prochaine, il se passera encore plein de trucs. Et par exemple, il y a le programme de l'allumette. Le programme de l'allumette, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que tous les mercredis et tous les samedis de 14 à 19h, l'allumette est ouverte à tout le monde pour boire un verre et discuter, laver son linge, cuisiner, emprunter des livres à la bibliothèque, utiliser la salle informatique, lire, jouer à des jeux de société, être accompagné sur des démarches administratives. Ça fait quand même pas mal de choses. Bah oui, c'est un centre social autogéré. Et donc, du coup, il y a des services qui sont rendus à la population. Ce que ne veut plus faire Christelle Morançais. Oui, non, le fonctionnement, on va investir. Dans quoi ? J'ai un petit peu peur, moi, d'un monde dirigé par des Christelle Morançais. Qu'est-ce que c'est que l'allumette ? Eh bien, c'est ce centre social autogéré qui est présent 7 rue de la Marne à Le Mans. Il est ouvert donc le mercredi et le samedi de 14h à 19h. Et il y a d'autres activités, je vous conseille de vous renseigner. Cherchez par vous-même, c'est bien aussi un petit peu d'autonomie. Sinon, malheureusement, samedi 7 décembre, il y a encore une manifestation à 14h, place de la République, contre les interventions multiples de l'armée israélienne à Gaza et dans les territoires occupés et au Liban. Parce que ça continue au Liban, où Israël brise le cessez-le-feu préventivement pour éviter des atteintes au cessez-le-feu. Ah, mais quand est-ce que ça s'arrêtera ? On a également une manifestation, un appel à manifestation, le 14 décembre 2024 à 17h30, place des Jacobins, appel à manifester contre le fascisme pour la solidarité, puisqu'il y a toujours une instrumentalisation réalisation de l'anniversaire de la bataille qui a eu lieu en 1793. Par qui? Par des royalistes et des FAF. Voilà, donc il y a encore un appel à manifestation par les FAF le 14 décembre 2024. Donc soyons nombreux, on en reparle la semaine prochaine, 17h30, Le Mans, place des Jacobins. Bon, en attendant de se retrouver dans la rue pour lutter au niveau social ou au niveau politique, je vous dis tout simplement, allez, au revoir.